Acte 2, scène première. Une cour du château de Gloucester, sur laquelle donne l'appartement d'Edmond. Il fait nuit. Edmond et Curran se rencontrent. Edmond. Salut à toi, Curran. Curran. Et à vous, messire. J'ai vu votre père et lui ai notifié que le duc de Cornouailles et Regan, sa duchesse, seront chez lui ce soir. Edmond. Comment ça se fait-il ? Curran. Vraiment, je ne sais pas. Vous avez su les nouvelles qui courent ?
Je veux dire, celles qu'on dit tout bas, car ce ne sont encore que des rumeurs à fleur d'oreille.
Edmond. Nullement. Quelles sont-elles, je vous prie ?
Curran.
Avez-vous pas ouï parler d'une guerre, probable, entre les ducs de Cornouailles et d'Albany ?
Edmond.
Pas un mot ?
Curran.
Vous en saurez bientôt quelque chose. Adieu, messire.
Il sort.
Edmond. Le duc ici ce soir, tant mieux. À merveille. Voilà qui s'adapte naturellement à ma trame. Mon père a mis le guet sur pied pour prendre mon frère, et j'ai un rôle de nature délicate à jouer. Activité. Et toi, fortune, à l'œuvre. Appelons. Frère, un mot. Descendez, frère. Hola.
Entre Edgar.
Edmond. Mon père vous surveille. Oh, monsieur, fuyez de ce lieu. On a appris où vous étiez caché. Heureusement, vous avez la faveur de la nuit. N'avez-vous pas parlé contre le duc de Cornouailles ? Il arrive ici ce soir même, en hâte, et Regan avec lui. N'avez-vous rien dit de ses menées contre le duc d'Albany ? Songez-y bien.
Edgar.
Pas un mot, j'en suis sûr.
Edmond, dégainant.
J'entends venir mon père. Pardon, pour la forme, il faut que je tire l'épée contre vous.
Dégainez.
Faites semblant de vous défendre. Maintenant, faites bonne retraite.
Haussant la voix.
Rendez-vous ! Venez devant mon père ! Des lumières ! Hola, par ici !
Bas.
Fuyez, frère.
Haut.
Des torches ! Des torches !
Bas.
Bien, adieu.
Edgar s'enfuit.
Quelques gouttes de sang tirées de moi feraient croire à un plus rude effort de ma part.
Il se pique le bras.
J'ai vu des ivrognes faire pis que cela pour rire.
Père ! Père ! Arrête ! Arrête ! Pas de secours !
Entre Gloucester, suivi de serviteurs portant des torches.
Gloucester. Eh bien, Edmond, où est le scélérat ?
Edmond.
Il était ici, dans les ténèbres, agitant la pointe de son épée, marmonnant de coupables incantations et adjurant la lune d'être sa patronne tutélaire.
Gloucester.
Mais où est-il ?
Edmond.
Voyez, monsieur, je saigne.
Gloucester.
Où est le scélérat, Edmond ?
Edmond.
Enfui de ce côté.
Quand il a reconnu que par aucun moyen...
Gloucester à ses gens. Qu'on le poursuive. Hola, courez-lui, sus.
Les serviteurs sortent.
Que par aucun moyen ?
Edmond.
Il ne pouvait me décider à l'assassinat de votre seigneurie, que je lui parlais des dieux vengeurs qui dirigent tout leur tonnerre contre les parricides et des liens multiples et puissants qui attachent l'enfant au père. Enfin, monsieur, dès qu'il a vu mon invincible horreur pour son projet dénaturé, dans un mouvement sauvage, il s'est élancé, l'épée nue sur ma personne découverte, et m'a percé le bras. Mais, voyant que mon énergie alerte, hardie par le bon droit, s'animait à la riposte, ou effrayée peut-être par le bruit que je faisais...
Il s'est enfui, soudain.
Gloucester.
Qu'il fût à sa guise, il n'échappera pas aux poursuites en ce pays. Et une fois pris, expédié.
Le noble duc, mon maître, mon digne chef et patron, arrive ce soir. De par son autorité, je ferai proclamer que ma reconnaissance attend quiconque découvrira le lâche assassin et le livrera à l'échafaud. Quiconque le cachera, à mort.
Edmond. Quand, en dépit de mes avis, je l'ai trouvé inébranlable dans sa résolution, je l'ai, dans les termes les plus véhéments, menacé de tout découvrir. Il m'a répondu « Bâtard déshérité, crois-tu que si je te donnais un démenti, l'ascendant de ta loyauté, de ta vertu ou de ton mérite suffirait à donner créance à tes paroles ?
Non. Avec une simple dénégation, et je nierai la chose quand tu produirais ma propre écriture, j'imputerais tout à tes suggestions, à tes complots, à tes damnés artifices. Il faudrait que le monde entier fût à dupe pour ne pas s'apercevoir que les profits espérés de ma mort sont les stimulants énergiques et puissants qui te la font chercher.
Gloucester. Rare et fieffé scélérat. Il nierait donc sa lettre. Il n'est pas né de moi.
Fanfare.
Écoutons, les trompettes du duc. Je ne sais pourquoi il vient.
Je ferai fermer tous les ports. Le misérable n'échappera pas. Il faut que le duc m'accorde cela.
En outre, je veux envoyer partout son signalement, afin que le royaume entier puisse le reconnaître. Et quant à ma succession, ô mon loyal, mon véritable enfant, je trouverai un moyen de te la rendre accessible. » Entre le duc de Cornouailles, Regan et leur suite. Cornouailles. Eh bien, mon noble ami, depuis mon arrivée ici, c'est-à-dire depuis un moment, j'ai appris d'étranges nouvelles. Regan. Si cela est, trop faibles sont tous les châtiments qui peuvent atteindre le criminel. Comment va Milord ? Gloucester. Oh, madame, mon vieux cœur est brisé, brisé. Regan. Quoi ? Le filleul de mon père, attenté à vos jours ? Celui que mon père a nommé, votre Edgar ? Gloucester. Oh, milady, milady, c'est ce que ma honte aurait voulu cacher. Regan. N'était-il pas le compagnon de ces chevaliers libertins qui escortent mon père ? Gloucester. Je ne sais pas, madame, c'est trop coupable, trop coupable. Edmond. Oui, madame, il était de cette bande. Regan. Je ne m'étonne plus alors de ses mauvaises dispositions. Ce sont eux qui l'auront poussé à tuer le vieillard pour pouvoir dissiper et piller ses revenus. Ce soir même, un avis de ma sœur m'a pleinement informé de leur conduite. Et je suis si bien averti que, s'ils viennent pour séjourner chez moi, je n'y serai pas. Cornouailles. Ni moi, je t'assure, Regan. Edmond. J'apprends que vous avez montré pour votre père un dévouement filial. Edmond. C'était mon devoir, seigneur. Gloucester. C'est lui qui a révélé ses machinations. Il a reçu la blessure que vous voyez en essayant de l'appréhender. Cornouailles. Est-on à sa poursuite ? Gloucester. Oui, mon bon seigneur. Cornouailles. S'il est pris, il cessera pour jamais d'être à craindre. Faites à votre guise usage de ma puissance. Pour vous, Edmond, dont la vertueuse obéissance est à l'instant même si bien distinguée, vous êtes désormais à nous. Nous avons grand besoin de caractères aussi profondément loyaux. Nous vous retenons. Edmond, je vous servirai, Milord, fidèlement à défaut d'autres mérites. Gloucester, je remercie pour lui votre grâce. Cornouailles, vous ne savez pas ce qui nous amène près de vous. Regan, à cette heure insolite, sous le sombre regard de la nuit, d'importantes affaires, noble Gloucester, sur lesquelles votre avis nous est nécessaire. Notre père et notre sœur m'ont fait part de leur mésintelligence, et j'ai cru bon de ne pas leur répondre de chez moi. Les courriers emporteront d'ici notre message. Notre bon vieux ami, que votre cœur se console, et accordez-nous vos utiles conseils pour une affaire qui réclame une immédiate décision. Gloucester. Je suis à vos ordres, madame. Vos grâces sont les très bienvenues. Ils sortent. Acte 2, scène 2e. Devant le château de Gloucester, la lune brille, on distingue vaguement à l'horizon les premières lueurs du jour qui va se lever. L'intendant Oswald et Kent se rencontrent. Oswald. La matinée te soit propice, ami. Es-tu de la maison ? Kent. Oui. Oswald. Où pouvons-nous mettre nos chevaux ? Kent. Dans la boue. Oswald. Je t'en prie, dis-le-moi en ami. Kent. Je ne suis pas ton ami. Oswald. Aussi bien, je ne me soucie pas de toi. Kent. Si je te tenais dans la fourrière de Lipsbury, je t'obligerais bien à te soucier de moi. Oswald. Pourquoi me traites-tu ainsi ? Je ne te connais pas. Kent. Compagnon, je te connais. Oswald. Et pour qui me connais-tu ? Kent. Pour un drôle, un maroufle, un mangeur de relief, un infâme, un insolent, un sot, un gueux à 3 livrées, un cuistre à 100 écus. Un drôle en sale bas de laine, un lâche au foie de lys, un vil chicanier, un fils de putain, un lorgneur de miroir, un flagorneur, un faquin, un maraud héritant de toutes les défroques, un gredin qui voudrait être maquereau à force de bons offices, qui n'est qu'un composé du fourbe, du mendiant, du couard et de l'entremetteur. Le fils est héritier d'une lisse bâtarde, un gaillard que je veux faire éclater en hurlements plaintifs si tu oses nier la moindre syllabe de ton signalement. Oswald. Eh, quel monstrueux coquin es-tu donc pour déblatérer ainsi contre un homme qui n'est pas connu de toi et ne te connaît pas. Kent. Il faut que tu sois un manant à face bien bronzée pour nier que tu me connaisses. Il n'y a pas 2 jours que je t'ai culbuté et battu devant le roi. Dégaine, coquin. Quoi qu'il soit nuit encore, la lune brille, je vais t'infiltrer un rayon de lune. Dégaine, putassier, couillon, Dégaine, dame Ray. Il met l'épée à la main. Oswald.
Arrière, je n'ai pas affaire à toi.
Kent.
Dégainez, misérable. Ah, vous arrivez avec des lettres contre le roi. Vous prenez le parti de la poupée vanité contre la majesté de son père. Dégainez, coquin, ou je vais vous hacher les jarrets avec ceci. Dégainez, misérable, en garde.
Oswald.
Au secours, holà, au meurtre, au secours.
Kent, le frappant.
Poussez donc, Manant, ferme, coquin, ferme.
Poussez donc, fieffé Manant.
Oswald. Au secours, holà, au meurtre, au meurtre.
Entre Edmond, Cornouaille, Regan et leur suite, puis Gloucester.
Edmond.
Eh bien, qu'y a-t-il? Séparez-vous.
Kent, se tournant vers Edmond.
Ah, vous, s'il vous plaît, mon petit bonhomme. Venez, je vais vous égratigner. Venez donc, mon jeune maître.
Gloucester.
Des épées, des armes, que se passe-t-il ici?
Cornouaille.
Sur votre vie, respectez la paix. Celui qui frappe est mort, qu'y a-t-il?
Regan.
Ce sont les messagers de ma sœur et du roi.
Cornouaille.
Pourquoi cette altercation entre vous? Parlez.
Oswald.
Je puis à peine respirer, milord.
Kent.
Ce n'est pas étonnant. Vous avez tant surmené votre valeur.
Lâche coquin.
La nature te désavoue. C'est un tailleur qui t'a fait.
Cornouaille.
Tu es un étrange gaillard. Un tailleur faire un homme.
Kent.
Oui, messire, un tailleur. Un sculpteur ou un peintre ne l'aurait pas si mal ébauché, n'eussent-ils été que 2 heures à la besogne.
Cornouaille à Oswald.
Parlez donc, comment a surgi cette querelle?
Oswald.
Ce vieux ruffian, seigneur, dont j'ai épargné la vie à la requête de sa barbe grise.
Kent.
Zed bâtard, l'être inutile. Milord, si vous me le permettez, je vais piler en mortier ce scélérat brut et en crépir le mur des latrines.
Toi, épargner ma barbe grise, chétif hoche-queue?
Cornouaille.
Paix, drôle. Grossier Manant, ignores-tu le respect?
Kent.
Non, monsieur, mais la colère a ses privilèges.
Cornouaille.
Qu'est-ce qui te met en colère?
Kent.
C'est de voir porter l'épée par un maraud qui ne porte pas l'honneur. Ces maroufles souriants rongent, comme des rats, les liens sacrés trop étroitement serrés pour être dénoués. Ils caressent toutes les passions qui se rebellent dans le cœur de leur maître, jettent l'huile sur le feu, la neige sur les glaciales froideurs, nient, affirment et tournent leur bec d'Alcyon à tous les vents du caprice de leur maître. Ainsi que les chiens, ils ne savent que suivre.
À Oswald.
Peste soit de votre visage épileptique. Vous souriez de mes discours comme si j'étais un imbécile.
Oison.
Si je vous tenais dans la place de Sarum, je vous pourchasserais toujours caquetant jusqu'à Camelot.
Cornouaille.
Ça, es-tu fou, vieux?
Gloucester.
Quel est le motif de votre rixe? Dites.
Kent.
Il n'y a pas plus d'antipathie entre les contraires qu'entre moi et un pareil fourbe.
Cornouaille.
Pourquoi le traites-tu de fourbe? Quel est son crime?
Kent.
Sa physionomie me déplaît.
Cornouaille.
Pas plus que la mienne, peut-être, montrant Edmond.
Ou la sienne, montrant Regan.
Ou la sienne,
Kent.
Monsieur. C'est mon habitude d'être franc. J'ai vu dans ma vie de meilleurs visages que ceux que je vois sur maintes épaules devant moi en ce moment.
Cornouaille.
C'est quelque drôle qui, ayant été loué pour sa rusticité, affecte une insolente rudesse et exagère la simplicité au mépris de tout naturel. Il ne saurait flatter, lui. C'est une âme honnête et franche. Il faut qu'il dise la vérité. Si elle est bien reçue, tant mieux. Sinon, n'accusez que son franc-parler. Je connais de ces drôles qui, dans leur franchise, recèlent plus d'astuces et de pensées corrompues que 20 naïfs faiseurs de courbettes qui se confondent en hommage obséquieux.
Kent, d'un ton doucereux.
Seigneur, en vérité, en toute sincérité, sous le bon plaisir de votre grandeur dont l'influence, comme l'auréole de flammes radieuses qui ondoie au front de Phébus.
Cornouaille,
qu'entends-tu par là?
Kent,
changez mon style, puisque vous le désapprouvez si fort. Je le reconnais, monsieur, je ne suis pas un flatteur. Mais celui qui vous a trompé avec l'accent de la franchise était un franc coquin. Ce que, pour ma part, je ne serai jamais, quand l'espoir d'apaiser votre déplaisir m'inviterait à l'être.
Cornouaille à Oswald.
Quelle offense lui avez-vous faite?
Oswald.
Aucune. Il plut naguère au roi son maître de me frapper dans un malentendu. Cet homme lui prêta main forte, et, flattant son emportement, me culbuta par derrière. Dès que je fus à bas, il m'insulta. M'injuria, fit maintes prouesses qui le distinguèrent, et obtint les éloges du roi pour cet attentat sur un homme sans défense. Tout à l'heure, dans l'exaltation de cet auguste exploit, il a même tiré l'épée contre moi, Kent. Il n'est pas un de ces chenapans et de ces lâches, près de qui Ajax ne soit un couard. Cornouailles. Hola, qu'on aille chercher les cèpes. Vieux coquin têtu, vénérable effronté, nous vous apprendrons. Kent. Monsieur, je suis trop vieux pour apprendre. Ne mettez pas vos cèpes en réquisition pour moi. Je sers le roi. C'est par ses ordres que j'ai été envoyé près de vous. Ce serait témoigner peu de respect et montrer une malveillance par trop insolente pour la gracieuse personne de mon maître que de mettre aux cèpes son messager. Cornouailles. Qu'on aille chercher les cèpes. Sur ma vie et mon honneur, il y restera jusqu'à midi. Regan. Jusqu'à midi? Jusqu'à ce soir, milord, et toute la nuit encore. Kent. Mais madame, si j'étais le chien de votre père, vous ne me traiteriez pas ainsi. Regan. Je traite ainsi sa valetaille. On apporte des cèpes. Cornouailles. C'est un drôle du même acabit que ce dont parle notre sœur. Allons, approchez les cèpes. Gloucester. Laissez-moi supplier votre grâce de n'en rien faire. Sa faute est grave, et le bon roi, son maître, saura l'en punir. La dégradante correction que vous lui infligez ne s'applique qu'aux plus vils et aux plus méprisés des misérables, pour des vols et de vulgaires délits. Le roi trouvera nécessairement mauvais qu'on l'ait humilié dans son messager, en le soumettant à une pareille contrainte. Cornouailles. Je réponds de tout. Regan. Ma sœur pourra trouver plus mauvais encore que son gentilhomme ait été insulté et maltraité dans l'accomplissement de ses ordres. Au valet. Entravez-lui les jambes. On met Kent dans les cèpes. À Cornouailles. Allons, mon cher seigneur. Partons. Tous sortent, excepté Gloucester et Kent. Gloucester à Kent. Ami, j'en suis fâché pour toi. C'est le bon plaisir du duc. Et son humeur, tout le monde le sait, n'admet ni froissement ni obstacle. J'intercéderai pour toi. Kent. De grâce, n'en faites rien, monsieur. J'ai veillé et parcouru une longue route. Je dormirai une partie du temps et je sifflerai le reste. D'un ton amer. La fortune d'un honnête homme peut bien avoir ses ailes-là au talon. Je vous souhaite le bonjour. Gloucester. Le duc est à blâmer pour cela. Ce sera mal pris. Il sort. L'aurore se lève. Kent, seul. Bon roi, faut-il donc que tu justifies le dicton populaire et que tu passes d'un ciel tolérable sous un soleil brûlant? Il tire un papier et le déploie. Rapproche-toi, fanal, de ce globe inférieur, qu'avec le secours de tes rayons je puisse lire cette lettre. Il ne se fait guère de miracle que pour la détresse. C'est de Cordelia, je suis sûr. Elle a été fort heureusement informée de mon travestissement, et elle prendra occasion des énormités qui s'accomplissent pour apporter à tous les maux leur remède. Il resserre le papier. Vous qu'ont épuisé les veilles, ô mes yeux, profitez de votre accablement pour ne pas voir cette ignoble logette. Bonne nuit, fortune. Souris encore une fois et fais tourner ta roue. Il s'endort.